histoire particulière. En 2016, Marie Chartron et Assia Khalid ouvraient la saison d'une histoire particulière avec celle de la maison Clavery. À la toute fin du 19e siècle, la boutique parisienne d'Auguste Clavery habille le corps des élégantes à la recherche du corset idéal. Mais d'où viennent ces corsets ? Sans doute de Limoges et de la célèbre maison Clément. Le travail y est dur, très dur. Le règlement intraitable et même cruel. Aujourd'hui, retour à Limoges. Nelsma Bouakra et Julie Béressy vous racontent l'histoire de ces ouvrières, ces femmes grandes oubliées de l'histoire sociale.
La libération des corsetières. Premier épisode, les corsetières décorsetées.
Le corset de force descend à peu près à mi-cuisse. Les manches en sont très longues.
Quand le corset est attaché, la victime a les mains un peu croisées sur le ventre. Elle ne peut prendre à boire ni à manger. Quelquefois, cet instrument trop serré meurtrit les chairs et cause des plaies.
On a dans le cachot de l'eau, de la soupe.
Le couvent, le refuge, 1847.
Ne pouvant faire usage de ses mains, la recluse est obligée d'attendre qu'on la fasse manger, comme les petits-enfants. Dans le cachot, comme si le corset et la faim ne suffisaient pas, les captives ont une coiffe dont les attaches leur passent dans la bouche, comme le mors des chevaux.
Une grosse chaîne en fer est passée autour du cou en forme de cravate et vient s'attacher derrière le dos.
Plusieurs de ces prisonnières, qui cependant n'ont jamais paru devant la justice, y ont contracté des infirmités incurables. Une quinzaine de pensionnaires est interrogée, mineure pour la moitié. Séquestration odieuse. Le journal La Démocratie Pacifique.
En avril 1848, à Saint-Étienne, 150 femmes investissent le couvent du refuge, animé par les sœurs de Saint-Joseph. Brandissant une statue du Christ en tête du cortège, les manifestantes arrachent fenêtres et portes qui symbolisent la clôture et brûlent les métiers à tisser. Le travail est alors suspendu dans le couvent. Ce type d'établissement fait directement concurrence aux ouvrières. Mais entre 1800 et 1880, les congrégations triomphantes s'étalent dans les campagnes. 200 000 femmes entrent dans des congrégations séculières, car entrer dans les ordres, c'est aussi bénéficier d'un emploi ou d'un poste d'encadrement. De plus, les écoles des congrégations sont perçues comme le moteur de la scolarisation des filles et favorisées par l'État. De l'école des sœurs à l'usine couvent, les religieuses participent à la mise au travail précoce des jeunes filles. On y apprend la lecture et l'écriture et les travaux de couture jusqu'à la préparation de la première communion, sésame, pour être embauchée dans des manufactures textiles. Ici, pas de jeunes filles en fleurs, mais la barre du métier à tisser. Couvent, couvent ouvroir, couvent usine, couvent pensionnat, providence. En juillet 1869, malgré l'hostilité des sœurs et des familles aux revendications collectives, la perte nette de leur emploi, la dispersion des fabriques, un vent de sédition s'étend de Saint-Étienne jusque dans les campagnes et 1200 apprentis arrêtent le travail en suivant l'exemple des ovalistes lyonnaises, les ouvrières de la soie. Le 28 janvier 1878, au congrès de Lyon, devant un public de 1000 personnes dont 600 femmes, Marie Finet, déléguée de la Corporation des couturières, s'oppose à son compagnon et fait face à l'hostilité de ses camarades sur le droit au travail des femmes. Les idées de Proudhon ont la vie dure et sous sa plume, cet avertissement aux citoyennes. Loin d'applaudir ce qu'on appelle aujourd'hui l'émancipation de la femme, inclinerais-je, s'il fallait en venir à cette extrémité, à mettre la femme en réclusion.
La femme est un être inférieur à l'homme, disent les savants. Et pourquoi, s'il vous plaît ? N'est-ce pas la société qui l'a faite ainsi ? Faible, au lieu de l'élever, on la met en tutelle. On lui parle en maître. On en fait une idole ou une esclave. La loi elle-même la met en parallèle avec les fous dans cet article qui dit « Ne pourront être tuteurs les faillis, les condamnés, les fous et les femmes. »
Marie Finet lance un pétitionnement à l'intention de toutes les ouvrières de France pour la suppression du travail dans les couvents et les prisons.
Observez la condition malheureuse des dévideuses de soie. Mal nourries, accablées de travail, et que le dimanche, on mène aux offices religieux pour compléter leur abrutissement. Dans quelques-uns de ces ateliers de dévidage, les patronnes, s'abritant derrière une dévotion menteuse, ne craignent pas de livrer leurs ouvrières aux commis et aux négociants qui les emploient.
Je suis absolument certain qu'à Limoges, il y avait des ouvroirs. Est-ce qu'ils ont été recensés? Est-ce qu'on a des documents là-dessus? Je ne sais pas.
Michel Kiener, historien.
Il faudrait pouvoir lire la semaine religieuse, mais je ne suis pas sûr que les semaines religieuses en parlent. Ça fait partie peut-être aussi de cet underground social et religieux sur lequel on a très peu de renseignements. Mais les ouvrards, c'est plutôt pour la ville où il y a des jeunes filles qui traînent, entre guillemets, et qui sont dans la rue. Ces jeunes filles qui traînent, un ouvroir est le moyen de les récupérer. C'est un peu comme les patronages. Mais un ouvroir, il a pour vocation de former des fillettes en espérant qu'à travers l'apprentissage de la couture, elles vont pouvoir avoir une utilité sociale, elles vont pouvoir avoir un métier et se monter le tout petit capital qui leur permettra de se payer leur trousseau au moment de leur mariage.
Est-ce qu'on peut aussi bien suivre finalement ces établissements dans la mesure où c'est une population qui est plutôt marginalisée? Est-ce qu'on peut avoir un peu de données sur cette population-là?
Rien. Les prostituées, je sais un peu mieux, parce qu'on en parle, parce qu'il y a des documents, mais pas seulement ça, parce qu'il y a des témoignages. Et parce que les hommes, à l'époque, en 1900-1920, 80%-90% des adolescents mâles se dépucelaient avec une prostituée. C'était comme ça. Donc les hommes en parlent librement, je veux dire, ça fait partie de la vie. Par contre, les ouvroirs ou ces choses-là, je veux dire, ça ne concerne pas les hommes, ça, c'est... Si vous voyez, à l'époque, je veux dire, c'est... dans la documentation, dans les souvenirs des hommes, je ne les trouve pas. Dans les mémoires des hommes, je ne vois pas mentionner ça. Ils épousent une femme, ils ne disent jamais quelle instruction elle a eue avant. Moi qui ai connu des ouvroirs, qui en ai entendu parler, qui est même... tout enfant, qui suis entré dans un endroit où il y avait des petites filles qui travaillaient et auxquelles on apprenait la couture, etc. Et puis il y a aussi tous ces petits établissements qui existaient dans les campagnes. Ça se fait avec beaucoup de bonnes intentions. Mais il faut sauver les âmes, sauver les femmes, car on sait que la société ne peut tenir que par les femmes. Alors par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, dans les années 1885-90, je n'ai pas retrouvé la référence, mais il y a on a le règlement que vous connaissez peut-être, que vous avez retrouvé peut-être, mais que les archives municipales sauront le retrouver. C'est le règlement d'une manufacture, une petite manufacture de linge. Enfin, je ne sais plus quoi exactement, peut-être de corset, avec un règlement très, très dur, très religieux. Toute femme qui serait, etc., n'aurait pas une conduite qui serait chassée, etc. Il y a prière le matin, prière le soir. On a affiché, il y a un crucifix dans les salles, enfin, etc. Donc il y a ce règlement-là. Il y a effectivement à Limoges des petites usines du linge, mais je ne les connais pas.
En 1889, Monsieur Clément fait construire une usine de confection de corsets. Une entreprise prospère. Il se rend tous les matins rue Baudin et ordonne à ses ouvrières de se mettre à genoux dans l'atelier. Mais c'est madame qui veille au grain. Elle récite une prière sur un livret qu'elle donne chaque semaine.
Apostolat de la prière. Ligue du cœur de Jésus.
Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres et les
divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres
afin que les âmes chrétiennes deviennent les dignes instruments des desseins de Dieu pour le relèvement des sociétés et le salut
des instruments des desseins de Dieu pour le relèvement des sociétés et le salut du monde.
Amen. La maison Clément ne s'embarrasse pas de l'adhésion librement consentie à des ouvrières. À ses conditions morales, elle impose les siennes. La patronne oblige ses ouvrières, et cela sous surveillance, à faire 3 jours de retraite, à aller à confesse le samedi et faire leur Pâques le dimanche. Les absentes sont punies par une distribution de mauvais travail avec menace de renvoi. Chaque manquement est puni d'une amende, selon l'enquête diligentée par le commissariat central.
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, en redécouvrant ce texte ?
Alors, ce qui m'a le plus étonnée, en fait, c'est la première des choses, c'est que je ne savais pas qu'on fabriquait des corsets à Limoges.
Mireille de la Giappone.
Voilà. Ça, c'était une grande découverte avec l'importance de cette production, finalement, et tout ce que ça avait généré comme commerce. Parce que ça, c'était vraiment inattendu. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau de la condition des femmes, on savait un petit peu quand même, enfin, on sait, nous qui travaillons dans les archives, que la condition ouvrière, et d'autant plus féminine, n'a pas toujours été très brillante dans les usines. Ce qui m'a le plus frappée, c'était que les ouvrières devaient faire la prière, en fait, avant de commencer le travail. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir ça. La discipline de fer, oui, ça n'a pas forcément été une découverte, mais dans la dureté de la discipline, oui, quand même, parce que les sanctions étaient rudes, et les sanctions financières pour des personnes qui travaillaient 12 heures par jour, c'était un métier qui était difficile, rude. On a des plans également, on a retrouvé des plans de cette usine, avec des conditions de travail probablement assez pénibles aussi, du point de vue de la manipulation à la fois des tissus et puis du fait qu'il fallait être très précautionneuse pour fabriquer ces jolis corsets qui se vendaient jusqu'à Paris et qui ont fait l'objet d'un brevet quand même. Hein. Le corset Clément a été breveté parce qu'il avait une option, voilà, corset DDS, voilà, permettant le dégrafage instantané, ce qui est un avantage indéniable probablement. Voilà, donc il avait été remarqué pour le dégrafage instantané.
Corset des DS. Parce que,
oui, c'est la marque, hein, Corset DS. Donc vous voyez, c'est une publicité de la maison Clément qui se trouvait dans Limoges et qui vendait les corsets sur mesure, hein, en 24 heures. Donc c'est dire que les ouvrières devaient largement travailler. Voilà, alors ils apparaissent aussi, j'avais trouvé que le Corset DS, fabriqué donc par cette usine, l'usine Clément, qui est apparu dans le catalogue de l'exposition universelle de Paris, hein, 1889, c'est pas rien. Hein.
Comme vous dites, corset sur mesure en 24 heures sans augmentation de prix. Donc c'est bien sur la main-d'œuvre que pèse au final ce prix.
Voilà, effectivement, c'est indéniable.
Le 14 juin, passant outre les menaces d'excommunication de la patronne, des ouvrières refusent de faire la prière et de se mettre à genoux. Des meneuses célibataires et ne possédant que le produit de leur travail pour vivre.
Trois jeunes femmes menèrent le mouvement, Marie Géraud, 24 ans, Marie Saderne, 19 ans et Amélie Ratto, 18 ans.
Marguerite, dite Marie Seigue, 22 ans. Amélie Ratto, 18 ans. Madame Barry, Mademoiselle Coupeau, Madame Bonnet.
Tous les noms que vous évoquez, Barry, Géraud, Bonnet, Seigue, tout ça, ce sont des noms effectivement d'une tonalité régionale assurée. Il y a juste l'orthographe, mais peu importe, de Mademoiselle Coupeau, EAU, qui me fait douter un peu et qui pourrait être quelqu'un venant, disons, de la Vienne ou, de, vous voyez, ou du Berry, voilà. Mais normalement, ce sont donc quand même des femmes, ben, c'est une première vérification intéressante, c'est des femmes qui, normalement, devraient être nées dans le secteur, disons. Dans ce vieux Limoges-là, je vois beaucoup de lingères, je vois beaucoup d'ouvrières qui travaillent et qui vivent souvent parfois en pensionnat, entre guillemets. C'est-à-dire, on trouve 8, 10 femmes qui vivent, qui sont toutes recensées, hein, qui sont toutes locataires. Chacune est locataire, hein, de sa chambre. J'en soupçonne d'ailleurs d'être à deux par chambre, par exemple. Hein, voilà. Et dans ces maisons tranches de pain, chacun vit donc dans une chambre qui est une chambre cuisine, une chambre à vivre, où l'on dort, où l'on mange, où l'on vit. Quand l'agent recenseur passe, bonjour madame, vous êtes qui et vous faites quoi ? Lingère. Donc il y a des femmes du linge. Et ces femmes du linge, c'est mal précisé. Si jamais je trouvais un jour une corsetière, je vous appellerai en direct. Pour le moment, je ne me souviens pas d'en avoir pris, mais peut-être que je n'en ai pas repéré.
Les femmes, notamment dans la porcelaine, étaient certes apparues maintes fois aux côtés des ouvriers partageant leur lutte. Mais jamais elles n'avaient pris l'initiative d'une grève. Encore moins de la création d'un syndicat indépendant. Voilà donc qu'on s'en étonne, le déplore ou s'en réjouisse. Le syndicalisme féminin, métier de l'habillement, métier similaire et profession connexe, couturière, modiste, lingère, repasseuse, brodeuse, corsetière, a longtemps été à l'image d'un syndicalisme mixte d'inspiration religieuse, dirigé par des patrons ou des femmes de patrons.
Alors le syndicat mixte, j'ai envie de dire, c'est la préfiguration de ce que Pétain fera avec la charte du travail. C'est-à-dire que le syndicat n'est pas l'organe, enfin l'expression plutôt d'une lutte des classes, mais au contraire d'une coopération, collaboration entre le patron et les ouvriers.
Philippe Grandcoin, historien.
Et on veut remplacer donc l'affrontement par justement la coopération. C'est aussi les idées de Frédéric Le Play et de toute une branche du catholicisme social. Frédéric Le Play était installé juste à côté de Limoges, hein, à 10-15 kilomètres de Limoges, et il a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et effectivement, il y a toute une branche du courant le plaisien assez conservatrice qui s'est beaucoup intéressée donc à ce modèle historique qui était les corporations et voulait le reproduire. Alors comme la corporation n'a pas d'existence légale en France, on a pris le cadre du syndicalisme tel qu'il était défini par la loi pour créer ces syndicats mixtes.
Une des revendications des corsetières, c'est de construire un syndicat proprement ouvrier et composé uniquement de femmes, puisque ce sont des corsetières.
C'est justement échapper à la tutelle patronale. Parce que dans ces ateliers, finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a une forme de contrôle, j'ai envie de dire, quasi permanent de l'ouvrier par le patron, qui est le contrôle, bien évidemment, sur le lieu de travail, de l'organisation du travail, etc. C'est aussi un contrôle moral. Et puis, c'est aussi empêcher, justement, de s'exprimer et de revendiquer. Et la revendication d'un syndicat purement ouvrier, c'est en quelque sorte demander une liberté d'expression, une liberté syndicale, avoir la capacité de s'organiser et de revendiquer hors tout contrôle patronal.
Malgré leur inexpérience, les corsetières tinrent 108 jours, du 14 juin au 30 septembre 1895, grâce à l'appui de la fédération qui les aida à constituer un syndicat et qui organisa concerts, conférences et bals de solidarité. 45 grévistes sur 105 ouvrières avancèrent les revendications suivantes. Suppression des amendes, augmentation de 0,20 francs par corset, suppression de la prière obligatoire, atteinte intolérable à la liberté de pensée des ouvrières.
Michel Baraka, qu'est-ce que vous nous amenez là ? C'est des archives policières.
Oui, c'est toute la documentation qui a été recueillie auprès des archives départementales relatives au conflit des corsetières qui s'est tenu pendant 3 mois en 1895, dans la période qui a précédé le congrès constitutif de la CGT, qui s'est tenu à Limoges.
Ce sont des rapports de police, donc. Alors, comment sont-elles surveillées ?
Alors, je pense que ce sont des délégués des services de l'intérieur et de la préfecture, je pense. Hein, d'ailleurs, de toute manière, vous voyez, ville de Limoges, commissariat central de police. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un mouvement, il faut dire que 1895, ça ne fait jamais que 10 ans que les organisations syndicales sont autorisées officiellement. Et donc, dès qu'il y a un mouvement syndical, un mouvement de manifestation, la police essaye de voir ce qu'il en est. De toute manière, il n'y a pas besoin aujourd'hui encore.
Parole d'indic, lettre anonyme. Hier soir, aux heures de 2h et 2h30, se réunissaient en salle de conférence 37 corsetières. Le citoyen Treich et son ami Mourier faisaient valoir les bienfaits du syndicat, leur rôle dans les grèves survenues ces derniers temps et le triomphe des ouvriers sur le capital. Une délégation de 3 ouvrières fut désignée séance tenante.
Donc pour le coup, elles vont aller voir le syndicat qui va les écouter et ça se terminera d'ailleurs par la création d'un syndicat indépendant. Donc là, le citoyen Treich, c'est donc le président du syndicat des ouvriers de Limoges. C'est d'ailleurs celui qui a été à l'initiative de la convocation du congrès de Limoges, puisqu'il était délégué au congrès précédent des industries et des bourses du travail qui s'était tenu à Nantes en 1994. Il avait milité pour qu'il se tienne à Limoges en 1995.
Donc, on peut imaginer que leurs revendications sont entendues.
Par le citoyen Treich, pas par l'employeur.
Je vous laisse découvrir. 32 grévistes participent à une sorte de soirée qui a été organisée avec l'aide de syndicats. 32 grévistes y ont participé. Nous sommes 1 avenue des Bénédictins. La plupart de ces jeunes filles ont bu de la bière, ont dansé entre elles et se sont séparées vers 6 heures.
Génial. J'adore. Et comme on revient sur le rapport du commissaire central sur lequel on pourrait bon droit interroger, se réunir au domicile de leur secrétaire, 1 avenue des Bénédictins, cette vieille maison pourrie détruite maintenant. Il a été procédé à la répartition des fonds versés par divers syndicales dont le montant s'est élevé à 640 francs. 20 francs chacune, c'est beaucoup ça, 20 francs. quand la journée de travail, c'est 1,20 francs, 1,50 francs. Mais ça veut dire que peut-être c'est parce qu'elles ont été grévistes pendant 2 mois et qu'elles n'en peuvent plus. Voilà. Après la réception de ce petit secours, la plupart de ces jeunes filles ont bu de la bière, ont dansé entre elles et se sont séparées vers 6 heures. Oui, elles sont grévistes. Donc 6 heures, c'est 18 heures. Hein. Voilà. D'autres s'étaient rendus, ce qui est intéressant, au devant de leurs camarades qui travaillaient aux autres parties du corset, qui travaillaient aux autres parties du corset. C'est-à-dire, si je scrute le texte, on a là l'écho de la division du travail, comme dans la porcelaine. Le corset est une pièce extrêmement difficile à faire, qui implique plusieurs compétences. Et là, on voit bien que des femmes travaillent aux autres parties du corset. C'est-à-dire, ce sont des ouvrières qui travaillent, j'allais presque dire, à la même partie, ou disons dans un secteur de l'entreprise, qui se connaissent très très bien. Et celles-ci, un peu comme des lycéens ou des lycéennes d'un lycée qui iraient à la porte de l'autre lycée en disant « rejoignez-nous ». Eh bien, on a l'impression, là, cette phrase-là, je la trouve importante, et ce, afin de savoir si le patron avait l'intention de faire quelques concessions, c'est-à-dire qu'elles sont coupées du monde, dehors, pas question d'eux, mais à la sortie de l'entreprise, discrètement et sans trop se faire voir et en accostant, et il est probable que ces femmes qui sortent de l'atelier tentent de s'échapper ou baissent la tête pour qu'on ne les voit pas en train de parler à ces maudites grévistes de cette partie de l'atelier. De cette partie de l'atelier pourri, on ne cédera pas parce que l'atelier continue de travailler, que les autres ont besoin de manger parce que chez elles, on attend le salaire, etc. Et on voit là ces femmes grévistes qui ne parviennent pas à entraîner avec elles les autres. Et ça, je trouve ça terriblement dur. Et le coup de la bière qu'on boit ensemble, de ces femmes qui dansent entre elles pour un moment de gaieté collectif, ça rappelle aussi le besoin qu'on a quand on est gréviste de faire aller la solidarité au-delà du principe, c'est-à-dire de se tenir les coudes ensemble et en même temps de resserrer les rangs. Et il faut, pour resserrer les rangs, qu'on se connaisse bien. Je trouve ces quelques lignes-là du rapport du commissaire terriblement significatives.
Ça doit commencer à inquiéter, parce que c'est un mouvement de grève qui a duré 3 mois. Depuis le commencement de la grève, donc là, au 12 juillet, on annonce qu'il y a 32 grévistes, et 12 ouvrières, dont 8 apprentis, ont repris le travail depuis le commencement de la grève. Ces dernières, n'ayant pas été acceptées par le syndicat pour figurer sur la liste des grévistes recevant des secours, ont été contraintes de réintégrer l'atelier.
Elles courent un risque, effectivement, un risque extrêmement important, puisque aucune garantie d'être réembauchée, un droit du travail qui ne les protège pas véritablement, ça pose d'ailleurs le problème de quel côté est le droit dans l'entreprise.
Dominique Dantieu, historien.
Les patrons de la maison Clément le représentent assez bien, cette espèce de patronat qu'on disait autrefois de droit divin, avec donc une patronne. C'est assez classique, d'ailleurs, cette idée de la patronne qui essaie de moraliser ses ouvrières.
La question à la maison Clément, ce n'est pas finalement une question qui pourrait s'entendre comme aujourd'hui dans un certain nombre de revendications féministes, travail égal, salaire égal, puisque là, elle demande simplement une sorte de droit à la dignité.
Oui, alors dans le cas de la maison Clément, effectivement, un droit à la dignité, à la liberté de conscience, qui est au fond une revendication qui est portée par la République, hein, et on est 10 ans avant la séparation de l'Église et de l'État, mais on est en plein combat aussi, on est en plein combat anticlérical, il y a tout un contexte aussi qui favorise le rejet de la religion, et une espèce de modernité sociale aussi qui veut qu'on refuse aussi ce féodalisme patronal.
À l'échelle nationale, on a écrit, on a beaucoup cherché, toutes ces femmes, ces quelques femmes qui ont découvert l'action politique, qui ont découvert l'action syndicale, j'allais dire en s'émerveillant et en devenant des militantes ardentes, et aussi, pas seulement de la condition ouvrière, mais de la cause des femmes. Ça, on le sait. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans les congrès, ces femmes sont peu nombreuses, on les écoute ou on ne les écoute pas beaucoup, on ne leur donne pas beaucoup de responsabilités. Parfois, on en voit une ou deux qui percent un peu et qui sont reconnues. Mais j'allais dire, c'est avec une force de caractère incroyable.
Alors, par contre, à la base, ces femmes, je ne sais pas si elles ont lu ou pas, inutile de vous dire que quand vous gagnez rien du tout, vous n'achetez pas le journal tous les jours. Mais il n'empêche qu'un quotidien peut circuler dans un atelier et être lu, à condition qu'on ne le voit pas, que ça ne se sache pas. Je crois qu'il y a aussi une militance masculine auprès des femmes, etc., pour les sensibiliser. Il y a une militance. On va à la porte des usines, on leur dit « vous aussi, vous devez », etc. Je pense qu'il y a d'abord et avant tout la fraternité ouvrière, l'écoute de ce que pensent les autres, qu'on croise tous les jours. Et quand des gens parlent vrai, c'est-à-dire en disant « on va quand même pas se laisser faire », etc. et tout, je pense que ça participe de ça. Je crois que c'est ça qui est le livre de ces femmes et de cette classe ouvrière. C'est cette espèce d'interpénétration des uns et des autres. Le vent tourne.
Monsieur Clément ne consent à aucune augmentation, ni sur le prix à la pièce, ni sur la vente des fournitures, 40% plus cher qu'à l'achat par ce bon samaritain. Voilà qu'au fil des semaines, la grève s'effrite. De 32 grévistes en juillet, elle tombe à 22 en août. 22 irréductibles qui devront trouver du travail ailleurs. La grève est un échec. Les religieuses, contre moins qu'une aumône, prennent la relève.
Comment est-il possible que ce soit des sœurs qui reprennent le travail à la place des ouvrières pendant la grève ?
Alors, pourquoi des religieuses reprennent-elles le travail ? J'allais dire, par solidarité sans doute avec une de leurs ouailles, hein, parce que j'imagine que Madame Clément devait être assidue à sa paroisse, et sans doute peut-être, alors je brode un petit peu, hein, peut-être un des piliers du diocèse, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'il y a cette solidarité-là qui l'explique. Il y a aussi le refus, évidemment, de laisser la subversion s'installer. Et donc les sœurs, évidemment, elles, pour d'évidentes raisons, elles représentent, elles incarnent la morale, la foi, donc elles ne vont pas céder, surtout pas céder aux sirènes syndicalistes.
De toute manière, les sœurs, elles ont des ateliers de couture dans les couvents, donc forcément, elles sont aptes à reprendre les choses. Et là, compte tenu de l'obligation de la prière, on est en face d'un patronat chrétien, catholique, qui a sans nul doute les moyens de demander aux sœurs de prendre le relais pour casser le mouvement de grève. On s'appellerait ça aujourd'hui des briseurs de grève.
Retenons ces noms. Marie Géraud, Marie Saderne, Amélie Ratto.
Madame Barry.
Elles seront quelques-unes assiégées lors du congrès constitutif de la CGT en 1895. Mais dans les archives du dit congrès, ce qu'elles dirent, il n'en reste rien.
On ne sait pas trop ce qu'il est advenu après le conflit de la vie de chacune de ces femmes qui ont pris des responsabilités au moment de la constitution du syndicat.
Avec Michel Kiener, historien, Michel Baraka de l'Institut d'histoire sociale du Limousin, Dominique Dantieu, historien, Mireille Della Giacomo, des archives municipales de Limoges, et Philippe Grandcoin, historien. Les lectures de Anne Stephens et Géraldine Sageman sont adaptées du dossier d'archives constitué par Jeannette Dussartre-Chartreux. Prise de son, Arthur Dumont, et au mixage, Bruno Mourlan. Une histoire particulière, une émission coordonnée par Christine Bernard. Un documentaire de Nejma Boikra et Julie Bérissi.
La suite de l'histoire de la libération des corsetières, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.